Jean Genet, L'art de la fugue. Écrire, sous écrou, Nejma Bouakra, Angélique Thibault.
L'enfant qui nous occupe était à ce point hors d'ici que de sa fugue, il devait retenir. Une vieille accroupie que l'arrivée soudaine de l'enfant fait pisser sur ses bas de coton noir. Devant les glaces des restaurants explosant de lumière, de cristaux et d'argenterie, encore vides de dîners, il assistait, médusé, aux tragédies qui jouent des garçons en frac. Des pédérastes qui ne lui donnaient que 50 centimes et s'enfuyaient plein de bonheur pour une semaine. Aux grandes gares de bifurcation, il observait de la salle d'attente la nuit. Les multitudes de rails parcourues d'ombres mâles porteuses de tristes fanaux. Il eut mal aux pieds, aux épaules, il eut froid.
Genet commence ses premières fugues à l'âge de 10 ou 11 ans.
Emmanuel Lambert,
sans
auteur.
Qu'on puisse bien les expliquer, hein. Il écrira « Mon enfance a rêvé de palmier ». Il prend le train sans billet, et c'est là que la délinquance commence. Hein. C'est toutes ces petites infractions qui vont le conduire à la colonie pénitentiaire de Maitrey.
Je vous ai dit, ça marche, la caméra, très bien. Je vous ai dit hier que vous faisiez un travail de flic. Oui. Et vous le continuez maintenant, ce matin. Et je vous l'ai dit hier et vous l'avez déjà oublié.
À son entretien tardif à la BBC avec Nigel Williams.
Exactement comme le voleur que j'étais il y a 30 ans était interrogé par des policiers, par une escouade de policiers.
On dirait qu'il est acculé, en fait, par le journaliste.
Sur le petit siège, seul, interrogé par plusieurs personnes.
Là, cette phrase géniale, il dit « Je suis tout seul ici ».
Vous, deux, trois, 4, 5, 6, 7.
Et ça commence très tôt. Et oui, il répond aux policiers qui l'interrogent quand on le prend après ses fugues. Il répond évidemment aux psychiatres parce que il est bien obligé de leur répondre. Il a quand même répondu qu'il était ingénieur électricien, je ne sais plus quel interrogatoire de police. Quelle est votre profession? Évidemment, il ne peut pas dire je suis voleur. Il répond je suis ingénieur électricien. Donc ça commence, il est adolescent, il faut quand même se représenter, il est très jeune. Je veux dire, on a ses empreintes digitales, on les a dans les registres des crous des prisons, on les a. Donc tout ça, il va le travailler dans ses romans, où il y a évidemment des scènes d'interrogatoire à l'intérieur de commissariats, dans des tribunaux, dans des cabinets médicaux. Le fait d'être soumis au regard médical, évidemment, était doublement significatif pour lui, en tant que délinquant d'une part et en tant qu'homosexuel de l'autre. Puisque c'était vraiment considéré à l'époque comme une perversion, une anomalie.
Mars 1926. Jean Genet est écroué sous le nom de Genest. Au tribunal pour enfants, le greffier observe, il se ronge les ongles. Au juge pour enfants, Jean Genet promet de s'amender. Larcin, fugue s'enchaîne. Le directeur de l'assistance publique note. Pour l'instant, il n'a reçu que le pardon et l'exhortation au bien. Il est intelligent, bien trop intelligent. À qui appartient-il, Jean Genet ?
C'est un enfant qui ne s'appartient pas à lui-même, d'abord, et qui est jeté dans une histoire qui remonte loin, qui est très symptomatique, très intéressante de la répression, une histoire de la création des lieux d'enfermement.
Mandat de dépôt, 29 avril 1926. La peine d'enfermement jusqu'à la majorité, 20 ans, et le lot commun des mineurs vagabonds, soudain contraint au silence et à l'immobilité, à la surveillance continue. La petite roquette, construite en 1836, comprend 588 cellules individuelles. L'isolement y est une pratique dite thérapeutique. Les dimensions des cellules sont les suivantes. Hauteur, 2,25 mètres, profondeur, 2,35 mètres, largeur, 2,80 mètres. Jean Genet l'a décrit peinte en noir, à mi-hauteur. Il s'en souvient dans Miracle de la Rose. Que ce soit la petite roquette, puis à la colonie pénitentiaire de Maitrey, Jean Genet va subir des périodes d'isolement complet, Maître Sisluski.
La petite roquette, c'est de l'horreur. C'est l'horreur, c'est une... Alors, on est à l'époque, on considère que des mineurs délinquants vont s'amender par la solitude et le remords. Et donc, il y a un système, qui est le système philadelphien, qui consiste à vivre en prison dans l'isolement de jour et de nuit. Même dans la chapelle de la petite roquette, ils sont dans des niches, ils ne se voient jamais les uns les autres.
Ça fait partie de la politique rééducative de ces institutions qui visent à faire de l'internement, du système punitif de la prison, un système de réinsertion.
Bertrand Ogilvy, philosophe.
C'est ce que Foucault décrit très bien dans Surveiller et punir. Il s'agit de faire que ces moments d'enfermement ne soient pas ce qu'en fait ils sont devenus. On le dit couramment, la prison c'est l'école de la criminalité. Le projet de départ c'est l'inverse. C'est l'idée qu'il faut que les enfants soient isolés pour se retrouver en fait face à Dieu. Face à Dieu, face à leur conscience morale. C'est marqué sur les murs, c'est marqué « Dieu te voit ». Donc l'équivalent du panoptique, c'est un panoptique qui n'est pas architectural, mais qui est disséminé en quelque sorte. Bon.
On sait que Foucault a rencontré Jean Genet en 1972. Ce qu'ils se sont dit, on ne sait pas.
On ne sait pas, mais on peut l'imaginer. J'imagine que Foucault a dû écouter Genet, parce que Foucault savait écouter, et qu'il a eu la confirmation dans ses entretiens, dans ses discussions, de la représentation qu'il se faisait à partir des textes, de ce que c'était que ces institutions très particulières de cet archipel carcéral qu'il théorise dans Surveiller et punir. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une logique carcérale d'enfermement, de contrôle, d'observation, de dressage, qui va depuis les institutions les plus dures, les plus enfermantes, jusqu'à celles qui sont en apparence les plus ouvertes, une espèce de continuum, il appelle ça un continuum carcéral, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une logique carcérale d'enfermement, de contrôle, d'observation. Et Foucault établit une continuité surprenante et choquante aux yeux de certains entre l'école et la prison, entre l'école et l'asile, entre l'école et l'exclusion psychiatrique et pénale. Et Genet est un représentant assumé de cette violence que la France exerce sur ses propres enfants de façon soit explicite, soit diffuse.
Les douces cellules de prison. Après la monstruosité immonde de mon arrestation, de mes différentes arrestations dont chacune est toujours la première, qui m'a paru avec ses caractères d'irrémédiable, en une vision intérieure d'une vitesse et d'un éclat fulgurant, fatal, dès l'emprisonnement de mes mains dans le cabriolet d'acier brillant, beau comme un bijou ou comme un théorème, la cellule de prison. Que j'aime maintenant comme un vice, m'apporta la consolation de moi-même par soi-même.
Enchaîné au gardien qui le conduit par des menottes, Jean Genet arrive de la prison de la Roquette à la colonie pénitentiaire de Maitrey par un soir de septembre. Conduit au quartier de discipline, attenant à l'église Mirador centrale, il entend le pas cadencé des sabots et les cailloux fondus à la carrière. À la colonie pénitentiaire de Maitrey, le travail et la discipline sont les voies de la rédemption. Rasé, il reçoit le matricule 426. Jean Genet connaît les années noires de la colonie. Les conditions sanitaires se dégradent en 1926. Tuberculose, rougeole, 400 enfants flottent dans leur tenue de marin. La place d'armes, une large place rectangulaire, deux rangées de pavillons, 12 mètres de long sur 6 mètres de large, plus étroits que des casernes, servent le jour d'atelier et de dortoir la nuit. Tête bêche, 50 colons de 10 à 20 ans dorment dans des hamacs.
J'arrivais à la colonie, un soir très doux de septembre.
Simon, dit le petit bâtard, 11 ans et demi, 2 ans de prison pour vol d'un lapin et de 2 canards.
J'eus la stupeur et l'épouvante Jacques, de constater que nous y étions, sans avoir franchi de murs, de barbelés, de ronces, de pont-levis.
Exposition au carcan et surveillance à vie. Incendie d'une récolte
la colonie de Maitrey n'est pas un pénitencier. C'est une grande famille.
Jean, mendicité.
Un chef de famille.
En correction jusqu'à 20 ans.
Deux frères aînés Simon ont tout Charles. Pouvoir de discipline. Jean Genet est affecté à la famille B.
C'est là où, au fond,
Albert Dichy,
Genet,
auteur,
établit une classification très précise de la hiérarchie qui règne
directeur
dans,
littéraire de l'INIC.
À la colonie, c'est-à-dire entre les enfants. Donc il y a ce qu'il appelle les vautours, il y a ce qu'il appelle les caïds, et puis il y a la dernière catégorie qui est constituée par les cloches. Et Genet se classe parmi les cloches. Et c'est là aussi qu'il découvre cette admiration pour les durs.
Comment rendre sensible, compréhensible, la saveur d'un dimanche matin? Un marle me rasait les joues et les caressait. J'étais seul au monde. La colonie était mon univers. La famille B était ma famille.
Il y a eu dans toutes, et encore à Maitrey, il n'y a pas eu vraiment de révolte. Mais dans beaucoup de colonies en France, il y a des révoltes. Il y a la célèbre révolte de Belle-Île-en-Mer, il y en a un peu partout. Et les deux motifs de révolte, c'est la discipline des gardiens, la dureté des gardiens et la nourriture. La nourriture qui est insuffisante en quantité et épouvantable en qualité. Et dès qu'il y a une punition, c'est privation de nourriture, pain sec à l'eau, etc. Et comme on est quand même en présence d'adolescents, évidemment, c'est tout à fait dramatique et préjudiciable. Il faut savoir qu'il y a des portions au départ qui sont prévues, et puis ça passe entre les mains des gardiens. Donc il y a des prélèvements, il y a du commerce qui est fait, et ce qui arrive dans l'assiette à la fin, dans l'assiette du colon, n'a rien à voir avec ce qui est prévu à l'origine. Oui, oui, ils ont faim.
Jean Genet évoque ces marles qui trahissent, qui sont à la fois ceux qui sont choisis, désignés, et ceux qui ne cessent de trahir leurs condisciples.
Si vous voulez, on retrouve à Maitrey, en plus jeune et en un peu plus petit, ce qu'on voit en Guyane, c'est vrai. Le bagne des adultes va inspirer le bagne des enfants, et pour obtenir des faveurs, on est prêt à tout, c'est vrai. On retrouve tout, il y a tous les commerces, il y a du proxénétisme, il y a de la prostitution, il y a tout ça à Maitrey, dans l'entre-deux-guerres en tout cas. Quand vous isolez dans une prison des gens que la société rejette, ils vont avoir le pour premier souci de recréer une hiérarchie. Tout en bas, il y a les lopes, les faibles qui subissent. Lui dira que la moitié des colons passe son temps à enjamber l'autre moitié. Vous mettez des adolescents ensemble, il y a des pulsions, il y a des connaissances, il y a des découvertes, etc. Voilà, et il se passe des choses. Et les gardiens s'en privent pas.
Quand on me parla de lui, à mon arrivée à Maitrey, il était en prison à Orléans. Lors d'une évasion, les gendarmes l'avaient repris à Beaugency. Il était rare qu'un colon pût aller plus loin en direction de Paris. Et après un séjour assez bref au quartier de punition, il sortit, affecté à la famille B, la mienne. Le soir même, je pus sentir dans sa bouche la saveur des mégots ramassés dans les lauriers, aussi désespérante que le jour que je la connus pour la première fois de ma vie. J'avais 10 ans. Sur le trottoir, je marchais la tête au ciel quand je heurtai un passant, un jeune homme. Il allait à ma rencontre, tenant entre ses doigts, à hauteur de sa poitrine, donc de ma bouche, une cigarette allumée.
et ma bouche se colla contre elle quand je butais dans ses jambes. Cet homme était le cœur d'une étoile. Convergeant à sa braguette, les plis que forment jusque sur les cuisses le pantalon lorsqu'on s'assied demeuraient pareils aux rayons très aigus d'un soleil d'ombre. En levant les yeux, je vis le regard brutal, agacé du jeune voyou. J'avais éteint sa cigarette entre mes dents. Je ne saurais dire la douleur qui supplanta l'autre, la brûlure aux lèvres ou au cœur. Ce n'est que 5 ou 10 minutes plus loin que je distinguais la saveur du tabac, et qu'en léchant mes lèvres, ma langue rencontra quelques grains de cendre et de gris. Je reconnus cette saveur dans la laine chaude que la bouche de Diver me soufflait, alors que je savais les difficultés de trouver du tabac. De quelle race plus souveraine était Diver ?
On enferme les enfants, on les sépare pour qu'ils se retrouvent face à Dieu et à la conscience, et en fait ils se retrouvent face à leur imaginaire foisonnant, à leur imaginaire érotique, à leur aux passions bouillonnantes qui vont se déployer quand ils vont sortir de l'isolement et retrouver cette espèce de famille étrange, organisée selon les modèles qui sont à la fois militaires et familiaux dans la cité de Maitrey. Et qui vont produire cette espèce de double vie très étrange avec des mariages de nuit qui se déroulent dans la chapelle. Ce fameux épisode dans Le Miracle de la Rose où Genet se marie avec un des détenus, avec une description extraordinaire de tous ces enfants au crâne rasé qui s'introduisent la nuit dans la chapelle et qui accomplissent un mariage inversé, un mariage, je dirais pas civil, mais un mariage sauvage. Qui va consacrer son couple avec cet amoureux du moment qui s'appelle Diver.
Ce fut par une nuit claire et glacée, étincelante. Du dedans, on entrebâilla la porte de la chapelle. Un gamin passa sa boule rasée, regarda dans la cour, inspecta le clair de lune. Et moins d'une minute après, le cortège sortait. Description du cortège. 12 couples de colombes ou colons, de 15 à 18 ans, tous beaux, même le plus laid. Leur crâne était rasé. En tête court le marié, Diver, et moi, la mariée. Je n'avais sur la tête ni voile, ni fleur, ni couronne. Mais flottaient autour de moi, dans l'air froid, tous les idéals attributs des noces. On venait de nous marier secrètement en face de toute la famille B réunie, moins les cloches ou Clodo, bien entendu. Le colon, qui d'habitude servait l'aumônier, avait volé la clé de la chapelle. Et vers minuit, nous y étions entrés pour accomplir le simulacre des noces, dont les rites furent parodiés, mais les vraies prières murmurées du fond du cœur. Et le plus beau jour de ma vie fut cette nuit. Silencieusement, parce qu'il était pieds nus dans des chaussons de drap beige et qu'il avait trop froid et trop peur pour parler, le cortège gagna l'escalier de la famille B, escalier extérieur, en bois, qui conduit au dortoir. Plus nous allions vite, et plus l'instant s'allégeait, plus notre cœur battait, plus nos veines se gonflaient d'hydrogène. La surexcitation suscite la féerie.
Se trouvait un immense crucifix.
Oui.
Un immense crucifix en bois.
En bois, apparemment, oui. 3 mètres de haut, 3-4 mètres de haut.
Éric Labeille.
Le cœur de la chapelle est constitué d'un grand vitrail, un vitrail décoré de motifs floraux avec une grande croix au centre, qui était autrefois une sorte de vitre sans teint, derrière laquelle les pensionnaires de de l'institution La Paternelle venaient assister à la messe sans être vus des autres colons de la colonie. Donc le jour de messe, les colons entrent dans l'église et ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est que de l'autre côté du grand vitrail qui marque la fin du chœur de l'église, il y a d'autres enfants qui eux aussi assistent à la messe sans pouvoir être vus, qui sont les pensionnaires de La Paternelle, qui est une institution spécialement consacrée à des enfants placés par leur famille pour être rééduqués, pour être châtiés d'avoir commis des actes ou avoir eu des comportements réprouvés par le milieu social de leur famille.
Certains pouvaient contaminer les autres ?
En fait, on a derrière le vitrail du cœur, ici, on a un alignement de cellules qui se font face de part et d'autre d'une allée centrale dans le prolongement de l'église. En fait, on a d'un côté la maison de Dieu et de l'autre côté la maison des réprouvés. En partant de l'église, on accède au cachot en passant par la sacristie. L'itinéraire a sa signification. On ne quitte pas la maison de Dieu pour accéder à l'espace de rédemption.
Les cheveux tondus et les peaux de satin.
Donc là, on arrive à une porte qui mène à un escalier extrêmement étroit qui permet de descendre sous l'église.
À quelques duramans,
où se trouvent une douzaine de cachots alignés de part et d'autre d'un couloir central.
Ils nous couclent à nu dans ces auberges sombres.
Nous sommes dans une cellule avec la grille au soupirail qui parvient à peine à éclairer la cellule. Un plafond en arc de cercle. Une voûte.
Un mac éblouissant, taillé dans un archange, bandant sur les bouquets de hyères et de jasmin. Que porteront tremblant tes lumineuses mains sur son auguste flanc, que ton baiser dérange.
Tristesse dans ma bouche, amertume gonflant mon pauvre cœur. Mes amours parfumés, adieu, vont s'en aller. Adieu, couilles aimées, eau sur ma voix coupée. Adieu, chibre insolent. Gamin, ne chantez pas. Posez votre air d'apache. Soyez la jeune fille. Au pur cours radieux, ou si tu n'as de peur, l'enfant mélodieux mort en moi, bien avant que me tranche l'âge.
Une porte en bois, un œilleton, une petite lucarne qui se referme avec un volet en bois, tout petit volet en bois. Des cellules qui mesurent combien ?
2 mètres sur 2. 2 mètres sur 2, oui. Avec chacune a un petit regard sur l'extérieur, un petit soupirail, avec une lumière blafarde qui descend sur les personnes qui sont enfermées. Il y a un bas pour des bœufs, au fond. Une enclume, ici, on a des binettes, des fourches, qui sont des vestiges de la colonie.
Ce sont des outils imposants, si l'on pense à la taille des enfants et des adolescents qui les maniaient.
Pour des petites mains, pour les colons les plus jeunes, effectivement, ce sont des outils d'adultes. Hein, donc on a des... Il n'y a pas d'adaptation de la taille de l'outil à l'âge de l'enfant.
Il y a des grands propriétaires qui vont prendre le statut de colonie, ça dure 4-5 ans, ça dure pas longtemps, ça leur permet d'avoir des gamins et de les faire travailler gratuitement. Maîtré a accueilli des gamins qui avaient 9 ans. Et les premiers colons qui vont arriver vont aller dans les carrières chercher des pierres et vont travailler pour construire leur maison. Hein. Il y a 700 hectares, puis il n'y a rien. Ça choque personne. Aujourd'hui, ça nous choquerait. À l'époque, ça choque personne de faire travailler des gosses de 14-15 ans. Hein. Dans des conditions dures, dans une carrière à extraire des pierres. Non, non, ça choque pas.
Colon, arrêtons-nous à ce mot colon. Des colons pour la terre, c'est ça ? Et de la terre pour les colons ?
Alors, les colons, parce que dans l'imaginaire collectif de cette époque-là, c'est la colonie. Et qu'est-ce qu'on colonise ? Ben, des terres.
Frédéric Chauveau.
Et donc, l'idée, c'est de pouvoir assurer le redressement moral des enfants par le travail de la terre. Au moment où Jean Genet est présent dans la colonie, c'est-à-dire en gros entre 1920 et 1930, c'est ce qu'on appelle la décennie noire. En 1926, par exemple, les récoltes ont chuté.
Alexis Danan dénonce un surveillant général, aujourd'hui à la retraite, y a notoirement tué des enfants. Tous ont à leur actif des souffrances, des agonies sans nom. À cause d'eux, des enfants se sont enduits les yeux de chaux vives, ont absorbé du grésil, de la peinture, du verre pilé, ont enflammé leurs plaies à l'aide de réveils matins. Ont provoqué en telle ou telle partie du corps des abcès, des ulcères, se sont froidement mutilés dans l'espoir de mourir. Et le plus odieux de tous ces tortionnaires, comment ne vous le citerai-je pas, monsieur le ministre ? Leur instructeur et leur chef, celui qui fut pendant près de 40 ans, monsieur le surveillant général Guépin, ancien moniteur de Joinville. Aujourd'hui, à la retraite, cet homme mourra peu de temps après. Jean Genet a croisé cet homme ?
Dans le miracle de la rose, Jean Genet affirme avoir croisé Guépin. Guépin est responsable directement de la mort de plusieurs colons.
Ces enfants sont confrontés à une absolue détresse.
Les enfants qui arrivaient, surtout les plus jeunes, étaient placés dans un pavillon qu'on appelait le pavillon Jeanne d'Arc. Et comme ils étaient relativement jeunes, ils peuvent très bien avoir 8 ans, 10 ans, 11 ans, ils étaient les plus démunis, ils n'avaient pas les ressources pour faire face. Il y a une expression à l'époque qui circulait, c'était celui de gibier pénal. Donc on pouvait à ce moment-là s'acharner sur eux sans craindre beaucoup de réactions.
Il faut dire les choses, entre les deux guerres, qui est-ce qu'on va embaucher comme surveillant ? Des anciens de 14. Bon. Donc des garçons traumatisés par ce qu'ils ont vécu, des garçons alcoolisés parce qu'on ne sortait pas des tranchées à jeun, bien évidemment. C'est les périodes noires où il va y avoir des gamins tués par des surveillants. Alors après, combien il y a eu de victimes ? Il y en a sûrement eu un certain nombre, bien sûr. Alexis Danan a eu le courage dans Paris Soir de nommer les surveillants assassins, comme il dit, les nommés Guépin, les nommés Bienvaux. Moi, j'ai retrouvé des exemples d'un gamin grelottant de fièvre qui est arrosé d'eau glacée, qui va en mourir, d'un autre qui est tabassé, coup de pied dans le ventre, qui va en mourir, bien sûr.
Jean Genet fait le récit des colons s'organisant pour déjouer la tension, et puis trahi par d'autres. Lui-même tente de s'enfuir. En 1926, on compte 189 tentatives d'évasion et 22 décès.
Jean Genet tente de s'échapper. La colonie agricole et pénitentiaire n'est pas clôturée, il n'y a pas des fils de fer barbelés ni de murs d'enceinte. Il suffit d'aller jusqu'au bout du chemin, de traverser les espaces agricoles, de franchir la petite rivière ou le cours d'eau avec leurs petits sabots, et à ce moment-là, il n'y a pas d'obstacle. Et certains, par contre, ont enlevé les sabots et sont nu-pieds pour essayer de s'échapper, parce que du coup, il y a moins de traces sur le sol, parce que les sabots écrasent l'herbe, par exemple, et c'est plus facile de retrouver leurs traces. Mais à ce moment-là, on organise une chasse à l'enfant.
Je crois qu'il y a un petit train qui passe non loin de la colonie de Maitrey. Est-ce qu'un enfant, au moins un, a pu s'échapper ?
Je crois pas. J'ai rien trouvé de... Non, non, non. Et même Jean Genet dit qu'aucun enfant n'a réussi à s'évader.
les fermières de la Touraine sont des coquines parce que elles savaient que les évadés voulaient changer de vêtements, donc elles mettaient, et comme il y avait des primes pour les ramener, elles mettaient sur leur fil à linge un pantalon et une chemise, mais il y avait une petite clochette au bout du fil à linge, donc elles étaient alertées et on pouvait arrêter l'évadé et toucher la prime.
Nos enfants attendirent donc une nuit favorable à leurs nerfs. Pour voler, chacun, une jupe, un caraco et une cornette. Ils marchèrent vite. Les paysans s'étonnèrent à peine. Ils s'émerveillèrent plutôt de voir sur les routes ces deux petites bonnes sœurs au visage grave. L'une en sabots, l'autre boitant, se pressaient ainsi avec des gestes mignons. Deux doigts fins qui relevaient trois plis d'une lourde jupe grise. Puis, la faim crispa leur estomac. Le soir, le chien-loup d'un berger s'approcha de Pierre en reniflant. Le berger, qui était jeune et élevé dans la crainte de Dieu, siffla son chien qui n'obéit pas. Pierre se crut découvert. Il courut en boitant jusqu'à un pin isolé sur le bord de la route qu'il escalada. Culafroy eut la présence d'esprit de grimper sur un autre arbre plus proche. Ce que voyant, le chien se mit à genoux sous le ciel bleu, dans l'air du soir, et fit la prière.
« Puisque les sœurs, comme les pies, font leur nid dans les pins parasols. »
Puis, s'étant signé, il se releva et rejoignit le troupeau. À son maître le berger, il redit le miracle des pins, et tous les villages alentour en furent avertis le soir même.
« Seigneur, accordez-moi la rémission de mes péchés. »
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Écrire veut dire éprouver des émotions ou des sentiments si forts que toute votre vie sera décidée par eux. S'ils sont si forts que seule leur description, leur évocation, où leur analyse pourra réellement vous en rendre compte, alors oui, c'est à mes traits que j'ai commencé et à 15 ans que j'ai commencé à écrire. Écrire, c'est peut-être ce qui vous reste quand on est chassé du domaine de la parole donnée.
Sur la place d'armes de Maitrey, un navire fut longtemps posé ventre à terre. Les jeunes gens y apprenaient le gréement et les usages de la marine. La frégate a disparu, mais pas les rêves d'un ailleurs pour ces jeunes captifs appelés à servir dans les colonies comme soldats. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne.
Albert Duchy, la période d'errance de Jean Genet, elle est assez secrète. Il est dans l'armée. Il devient soldat, lui dit « J'y suis resté 3 jours et je me suis évadé. » Mais ça, c'est Rimbaud, ce n'est pas Jean Genet. Il y est resté 6 ans, non ?
Oui, Genet, il l'a dit d'ailleurs dans Journal du voleur, il dit « La vérité n'est pas mon fait ». Et effectivement, on peut le vérifier sur un certain nombre de points dans l'armée, qui a été une période très importante pour Genet, puisque, au fond, une fois sorti de Maitrey, qu'il a réussi à échapper à cette enfance enfermée, il n'a aucun lieu où aller. Donc il s'engage dans l'armée, il a une période dans laquelle il vagabonde. Je pense que cette période de vagabondage, qui est aussi une période où il ne sait pas quoi faire de sa vie. Il n'est pas encore un écrivain, il n'est rien. Et là, il y a un rapport de l'assistance publique qui décrit l'état de misérabilisme et de pauvreté dans lequel il se trouve. Il traverse l'Europe en clochard. Au fond, ce voyage en Espagne, il le décrit comme une épopée, alors que c'est une débandade misérable.
Le long des côtes espagnoles, tous les 3 ou 4 kilomètres, les douaniers ont fabriqué des huttes d'où l'on peut surveiller la mer. Quand j'étais misérable, marchant dans la pluie ou le vent, la plus petite anfractuosité, le moindre abri devenait habitable. Quelquefois, je l'ornais d'un savant confort tiré de ses particularités. Là, j'ai le théâtre, la chapelle d'un cimetière, une caverne, une carrière abandonnée. Un wagon de marchandises.
Jean Genet, lui-même prostitué, dit-il.
Effectivement, les prostituées occupent dans l'œuvre de Genet une place très importante. Et d'abord parce qu'il a pu penser que sa mère était une prostituée. C'est une chose qu'il a pu penser, qui a été une des images qui ont traîné dans la légende de Genet. Mais aussi parce que lui-même s'est prostitué quand il était jeune, dans son voyage en Espagne. Et puis il y a, je pense aussi, l'idée de la prostituée comme d'une figure un peu sacrée. Il y a une scène qui est très belle dans Journal du voleur, où il croise dans la rue une femme, c'est la nuit à Paris.
En m'éloignant d'elle, et une sorte de rêverie aiguë, vivant à l'intérieur de moi et non au bord de mon esprit.
Il fait quelques pas et puis brusquement...
C'était peut-être ma mère que je venais de rencontrer.
Il a l'idée que cette femme est sortie de prison.
Je ne sais rien d'elle qui m'abandonna au berceau, mais j'espérais que c'était cette vieille voleuse qui mendiait la nuit.
Qu'elle a un teint blême.
Si c'était elle,
me dit son visage
de
poisson lune.
Si c'était elle, j'irais la couvrir de fleurs, de glaïeuls et de roses et de baisers. J'irai pleurer de tendresse sur les yeux de ce poisson lune, sur cette face ronde et sotte. Et pourquoi, me disais-je encore, pourquoi y pleurer? Il fallut peu de temps à mon esprit pour qu'il remplaçât ces marques habituelles de la tendresse par n'importe quel geste et même par les plus décriés, par les plus vils, que je chargeais de signifier autant que les baisers ou les larmes ou les fleurs. Je me contenterai de baver sur elle, pensais-je, débordant d'amour. Le mot glaïeul, prononcé plus haut, appelle-t-il le mot glavio? De baver sur ses cheveux ou de vomir dans ses mains? Mais je l'adorerai, cette voleuse qui est ma mère.
Derrida tire le titre du livre qu'il a consacré à Genet, de ce rapprochement entre le mot glaïeul et glavio, puisque le livre de Derrida s'appelle Gla. Et donc, le glissement de glaïeul à glavio fournit la matrice du livre de Derrida. C'est deux mots contraires, mais qui forment ce que Derrida appelait le glas de Genet.
Et si tout ce labeur de galérien s'était épuisé à émettre?
Page 137.
Le mot émettre me paraît intéressant, mais insatisfaisant.
Églantine.
Il faudrait dire aussi
glaise,
oindre,
glouton,
induire,
église,
enjoindre, enduire,
lure, glu,
gle. Il est aussi imprudent d'avancer ou de mettre en branle le ou la gle, de l'écrire ou de l'articuler en majuscule. Cela n'a pas d'identité, de sexe, de genre, ne fait pas de sens. Gle reste gle, tombe comme il faut le caillou dans l'eau.
Gla, morceau de glose, Jacques Derrida,
un jeu de mots, c'est
1976.
J'essaie de démontrer, si vous voulez, l'affinité
disons sémantique, si vous voulez, entre le lait comme héritage et le lait de la mer, le sein de la mer, le rapport entre le sein de la mer et la signature, etc. etc. Bon. Pour solder, soudoyer le déjà de l'aïeul absolu.
Déjà.
C'est un déjà absolu. Donc il s'agit sans cesse, sous le nom de la mer, de renvoyer à un passé absolu qui n'est pas simplement le passé de la génération précédente, etc., ou de la veille, mais un passé qui n'a jamais été présent. C'est pourquoi je parle d'aïeul absolu. Tous les glaïeuls du texte renvoient à cet aïeul absolu.
Le glas de Gabriel, Jean Genet évoque le prénom de sa mère, Gabrielle. Et pourtant, elle s'appelait Camille.
La première fois qu'il entend le nom de sa mère, c'est dans un procès où on prononce le nom de sa mère.
Gabriel.
Alors, Genet, dans Journal du voleur, dit Gabriel, mais en réalité, Gabriel était son second nom. Le premier nom, c'était Camille. Mais c'est comme si Genet n'avait pas voulu donner son premier nom, elle avait voulu le conserver pour lui. On est dans l'ordre du secret, hein. Et même dès qu'il est sorti de la colonie de Maitré, il fait des premières recherches et il écrit à plusieurs reprises. Il rencontre les gens de l'assistance publique, mais à cette époque-là, l'institution était garante du secret. Et il a voulu, alors ce qui est aussi assez émouvant, c'est que la dernière fois où il s'adresse à l'assistance publique pour avoir des renseignements sur sa mère, c'est exactement en 1941, c'est-à-dire l'année qui précède ses premiers écrits connus. Il écrit pour écrire sa légende, et cette légende, elle naît sur l'absence. Quand il est dit « tout aura lieu sur fond de nuit », il est né sur fond de nuit.
En deuil, et ses premiers romans commencent peut-être tous par des funérailles, comme dans Pompes funèbres. Avant que je connaisse Jean, du bâtard de la fille mère, j'avais choisi l'enterrement, plus loin déguisé par les mots, maquillé par eux, orné par eux, défiguré. Nous suivons la procession derrière le cercueil d'une petite bonne qui est la mère de cet enfant, et peut-être de Jean de Carnin, l'amant de Jean Genet. Tous ses premiers livres sont des livres de deuil, Albert Dichy.
Genet est marqué par le deuil dès le départ de son œuvre. C'est comme si, au fond, c'est comme s'il était mort quand il était jeune. Et qu'il y a une phrase de lui qui dit « Survivre, c'est survivre à un enfant mort ». C'est de lui dont il parle. Il a survécu toute sa vie à un enfant mort. On ne sait pas exactement à quel moment survient cette mort, mais on voit bien qu'au cours de son enfance, elle a eu lieu.
Où es-tu, pompe funèbre ? La petite bonne rentra dans sa chambre. Il faisait nuit. Elle ne prévint personne. Elle s'assit sur son petit lit de fer, toujours coiffée de sa couronne comme d'une casquette de voyou. Le sommeil la surprit ainsi, assise, balançant une jambe et sa marguerite fanée à la main. Quand elle se réveilla tard dans la nuit, un rayon de lune passant par la fenêtre faisait une tache claire sur le tapis râpé. Elle se leva et tranquillement, pieusement, elle déposa sa marguerite sur cette tombe merveilleuse de sa fillette. Puis elle se déshabilla et s'endormit jusqu'au matin. La petite Bonne est un personnage particulièrement bouleversant parce que c'est un personnage innocent. Mais elle a une forme d'innocence, elle a une forme de naïveté. Et le livre se clôt avec elle. Le livre se clôt avec le retour de la petite Bonne chez elle, après avoir subi deux des pires choses, je crois, qui puissent arriver à quelqu'un, c'est-à-dire la perte d'un enfant et le viol.
Pas de consolation.
Une consolation dans ce qu'il appelle le merveilleux, c'est-à-dire cette tombe imaginaire, ce rectangle de lumière découpé sur un petit tapis, et puis cette petite offrande. Là, on est au cœur, pour moi, de ce qui fait la beauté de l'écho des livres de jeunesse, c'est-à-dire c'est cette pensée tellement forte de la solitude, c'est ces personnages qui rentrent en eux-mêmes et qui, en eux-mêmes, trouvent quelque chose de l'ordre du sacré pour résister au monde. Voilà. Et si on veut chercher un personnage qui serait proche, au fond, de ce qu'on connaît de Genet quand on le fréquente, eh bien, je dirais que c'est sans doute le personnage qui est le plus proche d'être son double.
C'est vraiment un texte qui est construit, dirigé, pensé, senti pour les morts.
Mélina Balcazar.
Par cette dédicace constante à des morts, c'est-à-dire à un jeune mort. C'est des gens qui l'aimaient. C'est une dédicace concrète, vraiment. Mais en même temps, les rapproche avec de quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire vraiment de ce qui est peut-être la nature même du langage, de cette manière d'être en rapport avec l'absence. Parce que c'est comme être encore une manière de se dépouiller pour aller vers quelque chose d'encore plus radical, d'encore plus exigeant, d'une manière qui est plus que pertinente aujourd'hui. Et il y a beaucoup de tentatives pour presque salir ce rapport profond aux politiques chez lui, en disant que finalement il était marqué par la fascination du mal, par la haine, par les ressentiments. Et je pense que c'est pas du tout ça. Il y a tous ces morts qui n'ont pas le droit d'être pleurés, parce que bon, c'est des marginaux, c'est des gens qui appartiennent pas à la communauté politique.
C'est très difficile de lire Pompe funèbre sans revenir à la situation de départ de Pompe funèbre, qui est qu'on a le narrateur Jean Genet qui est devant le cercueil de son amant mort. Son amant, c'était quelqu'un qui avait vraiment existé dans la vie de Genet, qui s'appelait Jean de Carnin, qui était résistant communiste et qui est mort pendant la libération de Paris. Et donc, en fait, tout le livre se présente comme un long délire issu de ce deuil et de la manière dont il se représente les derniers instants de la vie de son amant et dont il se représente la vie de ceux qui l'ont approché de près ou de loin, et y compris de ses bourreaux. C'est un livre qui fonctionne comme ça par métamorphose successive, qui fait des plongées comme ça dans la conscience de personnages, et y compris dans la conscience de personnages qui incarnent l'abomination de l'époque, c'est-à-dire l'Allemagne nazie et l'idéologie hitlérienne, mais aussi le collaborationnisme et la milice. Donc là, Genet, vraiment, dans Pompe funèbre, il va très loin. Et il le fait de manière très peu claire, très peu univoque. On s'arrête parfois en se demandant si on a bien lu ce qu'on est en train de lire. Hein. Et d'ailleurs, même au-delà du fait que ce qu'on est en train de lire nous paraît trop choquant ou trop scandaleux, mais seulement même du point de vue du sens, est-on bien là où on croit qu'on est ? Parfois, il y a des embardés comme ça dans des grands passages lyriques, sous la lune, sous les éléments. On est avec les bêtes rampantes. Et puis d'un seul coup, on se retrouve dans le salon de la maîtresse d'un personnage qui se trouve être un officier nazi. Puis on repasse. On est à Berlin. Il y a une technique comme ça de collage des lieux, des temps et des consciences qui fait que, en fait, c'est un livre qui vous maltraite, pour me finir. C'est un livre qui vous promène comme ça d'un truc à l'autre, et c'est une expérience d'hallucination, mais c'est-à-dire c'est vraiment une traversée du mal et de ce que Genet, c'est-à-dire le narrateur du livre, perçoit de la société française au moment où il l'écrit, c'est-à-dire en pleine libération. Et là, le contenu politique du livre fait mal.
Hitler est à la fois, il est le, je n'ai dit le diamant du mal, au fond, il est la pointe de ce qui a représenté le mal et la puissance de son temps. Mais en même temps, je n'ai renverse cette figure en
en figure grotesque. Il se fait sodomiser par des soldats français. Donc il est à la fois une figure qui a voulu régner par la par le culte de la beauté, et en même temps il y a une dérision énorme qui s'applique au nazisme. Ça a créé beaucoup d'ambiguïté par rapport à Genet, parce que certains lecteurs ont pu penser à un moment donné qu'il était dans le culte du nazisme ou du fascisme, alors que si on lit vraiment Genet, c'est absolument impensable. Je veux dire qu'on ne peut même pas imaginer ce qu'aurait pu penser un véritable officier nazi en train de lire Pompes Funèbres. On a beaucoup parlé des ambiguïtés de Genet par rapport à l'armée d'occupation, à Hitler, au nazisme. Donc Genet a dit effectivement qu'une des images érotiques les plus grandes, c'est un soldat allemand en grand uniforme noir qui bat du tambour. Mais en même temps qu'il le dit, et il dit quelque chose de ce qu'a été effectivement le nazisme, c'est-à-dire la construction d'une image fascinante et qui a fonctionné parce qu'elle était fascinante. Mais en même temps, Genet déconstruit complètement cette image dans Pompes Funèbres.
On est dans la période de l'immédiate après-guerre.
Yves Pagès.
On est dans un auteur. Consensus qui peut nous sembler aujourd'hui assez étonnant, allant des gaullistes, recyclant parfois quelques personnes de la collaboration, et les communistes, le Parti des Fusillés. Bah, voilà, ils font consensus. Lui, de toute façon, quand il y a un consensus, c'est louche, c'est suspect. Donc c'est une opposition à ces fausses gloires de la victoire. Je pense que tout Pompes Funèbres est une adresse provocatrice à la bourgeoisie des juges, des notables, des policiers et de l'ordre bourgeois, exploiteur, dominateur, etc., qui la fuit en étant quand même un piètre voleur, mais néanmoins un voyou. Et puis, en même temps, on entre dans la réalité de ce qu'il pouvait y avoir dans une conscience de réprouvé de l'époque qui, d'une certaine manière, se disait « mais ça me venge ». C'est aussi un type de discours qui a pu traverser la tête de tellement de gens qui avaient été massacrés dans leurs existences par l'ordre, par tous les réprouvés, les êtres infâmes qui avaient été victimes de la violence de l'ordre moral de la Troisième République.
Personne ne peut dire si je sortirai d'ici, ni si j'en sors quand ce sera.
On commence par la description de Fontevraud, vous vous rappelez? Il y a un passage magnifique sur Fontevraud qui est très beau parce que c'est un passage dans lequel Genet montre à quel point le nom de Fontevraud, sa sonorité, son signifiant, sa puissance d'évocation, est en quelque sorte un résumé de tout un pan d'histoire de France. Et cette ambiance qui règne à Fontevraud, qui va se prolonger à Maitret sous d'autres formes, a comme caractéristique très claire et très frappante que c'est un lieu où les condamnés, les délinquants, les relégués peuvent aller jusqu'au bout de la logique qui les enferme, ce qui est à mort. Hein. Il y a tout ce passage très long sur le fait qu'il va rencontrer ce détenu qui s'appelle Arcamone, qui est condamné à mort et qui représente à ses yeux le destin suprême, enfin celui qui exprime de la façon la plus claire la situation de rejeté, de déchet, d'hommes jetables auxquels ils sont tous voués.
J'arrivais le matin, venant d'une cellule de punition où j'avais commencé la rédaction de ce livre sur les feuilles blanches qu'on me remettait pour la confection de sacs en papier. Mes yeux étaient effarouchés par la lumière du jour et tout endoloris par le rêve de la nuit. Un rêve où l'on ouvrait une porte à Arcamone.
Tout d'un coup, il fait naître une image à travers la grande une et la photo dans un journal d'un criminel, dans un point de vue qui est probablement un point de vue de masturbation, puisqu'il collait comme ça ces images de criminels adorés dans sa cellule. que finalement il nous fait rentrer par l'image dans ce qui est un pur imaginaire, c'est-à-dire finalement la cellule du prisonnier est un dispositif de boîte noire cinématographique.
Il découpe ces images.
Il les découpe et puis ensuite il enchaîne dans un univers totalement irréel avec un présent de la narration qui est le présent même de la claustration.
Weinmann vous a paru dans une édition de 5 heures. La tête emmaillotée de bandelettes blanches, religieuses et encore aviateurs blessés. Tombé dans les seigles un jour de septembre. Révélant aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne est frôlée d'assassins enchanteurs élevés sournoisement jusqu'à leur sommeil, qu'ils vont traverser par quelque escalier d'office qui, complice pour eux, n'a pas grincé. Sous son image éclataient d'aurore ses crimes, meurtre 1, meurtre 2, meurtre 3 et jusqu'à 6, disait sa gloire secrète et préparait sa gloire future. Ces assassins, maintenant morts, sont pourtant arrivés jusqu'à moi. Et chaque fois qu'un de ces astres de deuil tombe dans ma cellule, mon cœur bat fort. Mon cœur bat la chamade, si la chamade est le roulement de tambour qui annonce qu'une ville capitule. Et s'ensuit une ferveur comparable à celle qui me tordit et me laissa quelques minutes grotesquement crispé. Quand j'entendis au-dessus de la prison l'avion allemand passer et l'éclatement de la bombe qu'il lâcha tout près. Toutes les cellules étaient tremblantes, grelottantes, folles d'épouvante. Les détenus cognaient aux portes, se roulaient sur le plancher, vociféraient, pleuraient, blasphémaient et priaient Dieu. Je vis, dis-je, ou crus voir, un enfant de 18 ans dans l'avion. Et du fond de ma cellule 426, je lui souris d'amour.
On part, Jeannot. Aussitôt qu'on est sorti de cabane, on fout le camp en Espagne. Jean, écoute. Suppose qu'on soit à Cannes. En pédalo sur la mer. Il fait soleil. On serait heureux. Là-bas, on serait tranquille comme des baptistes.
Avec Albert Dichy, Bertrand Ogilvy, Emmanuel Lambert, Mélina Balcazar, Éric Labeille, Frédéric Chauveau, Maître Jean-Michel Xiklouki, Yves Pagès, Grande Traversée Jean Genet, responsable éditorial Emmanuel Laurentin, coordination Christine Bernard, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, documentation musicale Antoine Villouz, bruitage Aurélien Bianco, prise de son Jérémy Tuile et Emmanuel Couturier, mixage Bruno Mourlon, documentation Anne-Lise Signoret, François Chéniaud, Thierry Ancis et Zachary Bailly, Lise Jean Genet, une grande traversée de Nejma Bouakra réalisée par Angélique Thibault.